Chapitre 15. L'heure approchait, mon estomac se nouait. J'avais connu bien des situations stressantes, avec à la clé d'énormes enjeux, mais jamais rien d'aussi personnel. Le sang-froid qui me permettait d'échafauder des opérations efficaces pour d'autres me faisait défaut pour moi-même. J'allais prendre une douche dans l'espoir de me détendre. Je laissai l'eau ruisseler sur ma tête. Quelle réaction mon ami aurait-il? Trouverais-je les mots pour le convaincre? Serait-il là, au moins? Accepterais-tu ce que je m'apprêtais à te demander? Il fallut finalement se mettre en route. Les galeries se succédaient. Benoît ouvrait la marche, nous ne parlions pas. Nous nous retrouvâmes bientôt face au mur pivotant. Comme la veille, mon compagnon déclencha le mécanisme. « C'est ici que je te quitte, me dit-il. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je ne connais pas toute l'histoire, mais je suis certain d'une chose, sois toi-même, et tout ira bien. » J'avais la gorge sèche. Benoît me pressa les mains en signe d'encouragement et disparut derrière le mur qui reprit lentement sa place. Je gravis le grand escalier rapidement. Il restait à peine 20 minutes pour me cacher. Seuls mes pas résonnaient dans le silence. Je passai devant le puits des Saints-Forts, pris le passage vers Notre-Dame de Sous-Terre. La porte s'ouvrit dans un long grincement. La chapelle était plongée dans la pénombre. La seule lueur était celle de la veilleuse électrique marquant la présence du Très-Haut. Chacun voit ce qu'il veut dans les symboles. Notre-Dame de Sous-Terre était une chapelle longue et étroite, dont l'entrée, contrairement à l'habitude, était située du côté de l'autel. Des siècles d'éclairage à la chandelle et à la fumée des cierges avaient noirci la voûte basse de la nef. Seul l'autel était relativement récent. Au niveau des premiers rangs de chaises, sur la droite, une tenture masquait une porte en retrait dans le mur. La serrure ne me résista pas longtemps. Ce réduit devait servir à la fois de sacristie et de débarras pour les prêtres officiants. C'était parfait. De là, je pourrais guetter les visiteurs et voir Nathan quand il passerait dans l'allée. Je retournai attendre près de l'autel. Les minutes suivantes parurent durer une éternité. Je me sentais fiévreux, terriblement tendu. Je me rendis compte que j'avais les poings serrés quand mes ongles me rentrèrent dans les paumes. Au loin, la porte principale de la crypte s'ouvrit dans un grincement sonore. Presque aussitôt, une petite voix aiguë et impersonnelle emplit l'espace. Il ne pouvait s'agir que de la guide. Notre-Dame de Sous-Terre était le dernier temps fort de la visite de la cathédrale. L'écho des couloirs m'empêchait de comprendre distinctement les propos de la femme menant son troupeau. Je percevais seulement un monologue atone, puis le piétinement des touristes qui suivaient, encore le monologue, puis les pas, le tout s'approchant pour devenir de plus en plus clair. Ce petit jeu allait bien durer un quart d'heure. À côté, à la porte de la chapelle, je comprenais mieux à présent le discours de la guide. De sa voix haut perchée, elle récitait les faits et les dates à des gens qui n'en retiendraient probablement rien ou le savaient déjà. Une timide question venait parfois troubler son débit. Elle y répondait tant bien que mal, remplaçant ses lacunes par des sous-entendus sur lesquels personne n'osait demander plus de précision. Nous sommes ici devant le puits des Saints-Forts, baptisé ainsi parce que des fidèles y furent jetés pour avoir refusé de renier le Christ. Vous remarquerez la petite lampe au-dessus qui rappelle que leur esprit demeure présent. Le groupe n'était plus qu'à un virage de la chapelle, il était temps pour moi de gagner ma cache. À peine avais-je remis la tenture en place que la lumière se fit. La voix de la guide invita son groupe à entrer. Au son, il semblait y avoir une vingtaine de personnes. De ma place, je ne voyais pour le moment qu'un couple de touristes allemands dont l'épouse retraduisait à voix basse les commentaires. D'autres passèrent, déambulant, un jeune routard, deux femmes d'un certain âge qui semblaient boire les paroles de l'accompagnatrice. Les secondes s'égrenaient, toujours le commentaire de cette femme et pas de Nathan. Pour tous ceux qui étaient présents, il s'agissait d'une visite ordinaire. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se jouait dans l'ombre. Sans même le savoir, ils en étaient les témoins, les acteurs. Alors que mon impatience et mon inquiétude allaient me pousser à l'imprudence, Nathan me fit soudain face. Il regardait droit vers moi. Il avait dû fouiller tous les recoins depuis l'entrée et en conclure que je ne pouvais que me trouver là. Je l'attrapai par son blouson et l'attirai vivement derrière le rideau en priant le ciel qu'il n'ait aucune réaction bruyante. La guide débitait toujours inlassablement son texte, les pas des touristes restaient réguliers. Personne n'avait rien remarqué. Je me tournai vers Nathan, qui restait debout, stoïque comme jamais, et lui fit signe de garder le silence. Il me dévisageait. Je songeais à tout ce que nous avions à nous dire, à expliquer. Au bout d'un temps interminable, les visiteurs ressortirent enfin et repassèrent devant le renfoncement de notre porte sans y prêter la moindre attention. La lumière s'éteignit et la porte se referma. J'allumai ma torche.
« Qu'est-ce que tu as fichu ?»
lança aussitôt Nathan. Je l'incitai à nouveau à se taire. Mieux valait être certain que le groupe était loin. Nous attendîmes les ultimes paroles de la guide et le claquement de la porte principale. Nous étions seuls, enfin réunis. Les minutes qui allaient suivre seraient cruciales, pour Nathan comme pour moi.
« J'étais sûr que t'étais vivant, » affirma mon ami. « Pourquoi n'as-tu pas donné signe de vie plus tôt ?»«
Je vais t'expliquer. Toi, comment te sens-tu ? » ?»«
Bien mieux depuis que j'ai eu ton message. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, je ne me souvenais de rien, j'avais juste la vague impression qu'on avait eu un accident. J'étais surtout désorienté. Je te croyais dans la chambre voisine. Puis ils m'ont expliqué que tu étais introuvable, mais je n'arrivais pas à croire que tu y sois resté. Même quand ils ont parlé du corps repêché dans la Seine, je doutais encore.
Nous prîmes deux chaises, et pendant plus d'une heure, dans le silence de la chapelle, je lui racontai ce qui s'était passé depuis l'attentat. J'avais la sensation de me purifier, de me confesser. Pour la première fois, je ne me sentais plus seul. Comme toujours, Nathan se montrait attentif, bienveillant. Aucun des monstrueux événements des derniers jours n'avait entamé sa confiance. Mon vieil ami l'était toujours.
« C'est curieux, quand j'y pense, dit-il enfin, je n'ai jamais parlé de toi au passé, pas une seule fois. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?»«
Je suis sûr que tu es sous surveillance, sois très prudent. » Il eut un grand sourire. Ce conseil l'avait toujours amusé. Malgré l'étrangeté des circonstances, il y avait dans l'air un je ne sais quoi de normal, un parfum d'habitude, comme chaque fois que nous discutions, et ce qui avait semblé un problème insurmontable devenait une affaire à notre portée.
« Quand est-ce que je te revois ?»«
Je ne sais pas. Il vaut mieux te tenir à l'écart pendant quelque temps. Ils ne se sont pas souciés de savoir si tu allais survivre quand ils ont posé leur bombe. Reste en dehors de tout ça. Quand j'en saurai plus, je te ferai signe. » Il était déjà 4 heures passées, la prochaine visite allait arriver. Nous retournâmes dans la cachette en attendant les nouveaux visiteurs auxquels se mêlerait Nathan pour sortir.
« Désolé de te poser autant de problèmes, » murmurai-je.
« Ne t'inquiète pas, » rétorqua-t-il moqueur. « On a les amis qu'on mérite. Je vais mettre un panneau sur ta tombe, je reviens tout de suite. » De toute façon, j'aurais tout retourné jusqu'à connaître la vérité, alors. Au fait, joyeux Noël, mon pote.
Il m'asséna une bonne bourrade qui me fit grimacer de douleur.
Au même instant, nous entendîmes la porte de la chapelle s'ouvrir, puis la voix aiguë de la guide. Elle s'interrompit au milieu d'une phrase, peut-être les chaises déplacées. La miraculeuse magie de Chartres avait encore frappé. Il était temps pour Nathan de rejoindre les touristes. Il franchit le rideau en regardant le plafond comme si de rien n'était, esquissa une pirouette maladroite à mon intention, il boitait encore légèrement, puis disparut avec les autres. Je restai dans la sacristie bien après que la lumière fut éteinte et le groupe repartit. Enfin, je repris le chemin de l'église. En parcourant les souterrains, je réécoutai notre conversation. Deux évidences se dégageaient. La première, je pouvais compter sur Nathan. La seconde, il n'était absolument pas conscient de ce qui se passait. En débouchant dans l'église Saint-André, je découvris Benoît lisant au premier rang. Il releva la tête et sourit.
« Te voilà, tu as l'air serein. Tout s'est bien passé ?»
Je pris place à ses côtés et lui résumai notre rencontre. La fin de la journée se partagea entre les appels à William, Antoine, Kathleen et aux autres. J'avais beau être officiellement mort, les affaires continuaient, et même si je n'étais plus directement chargé des dossiers, je restais utile à ceux qui le reprenaient pour moi.
Je n'avais aucune envie de dormir. Benoît en profita pour me faire part de son avancée dans la traduction et la retranscription de son précieux ouvrage. Ce n'est que bien plus tard dans la nuit que j'eus enfin le temps de continuer à t'écrire. Raconter notre histoire n'avait plus le même sens depuis notre entrevue. Il n'y aurait plus jamais de doute entre nous sur ce qui s'était réellement passé après l'explosion, et pourtant, je ressentais l'impérieuse nécessité de tout sceller par des mots pour clarifier mon esprit, mais aussi pour t'aider quand nous en aurions tous besoin. J'ignorais alors à quel point mon intuition était juste.